chronique des littératures paysannes, mais Mahmoud Alaya. Aquí dins aquella crònica veia d'en parlar que és el 5 d'abril de 2011, va aquí a d'en parlar d'un autor que ha escrit, mant un roman, mant un llibre, que se diu Odette Vado. Alors, qual és Odette Vado?
Adicias, bonsoir à tous. Oui, Odette Vado est née à l'Abergement Les Sœurs. C'est un petit village près de Beaune, dans le Val-de-Saône, une région de plaine entre la côte des Grands Vins et la Bresse réputée entre autres pour ses élevages de poulets. Bon, elle a vécu son enfance et son adolescence au milieu des paysans. Elle a vu ces paysans vivre, bûcher, se courber sur la terre. Elle les vénérait sans jamais penser qu'un jour, 50 ans plus tard, elle referait leur vie grâce à ses souvenirs mémorisés. Odette Vado a écrit plusieurs ouvrages. Je vais en citer quelques-uns et puis on va l'écouter. Les Espérances du Cabas Noir, publié en 1994. Le Francis, en deux tomes, paru en 1995. Le Doux Secret de Florentin, 1998. Le Bûcheux, Le Vieux Garçon. Et son dernier livre, Toinette, fille de ferme, paru en 2010. Tous ces romans sont inspirés et nourris par la terre. L'auteur sait à merveille raconter une histoire au goût de terroir, animer des personnages savoureux, au courage paisible, avec un solide bon sens. D'une écriture alerte et fleurie, elle nous raconte, geste par geste, avec une grande minutie de détails, des parcelles de vie, des rêveries, ainsi que les soucis et les joies de ces gens enracinés dans leur lopin de terre, en harmonie avec la ronde des saisons. Je voudrais préciser qu'Odette Vado est membre de l'Association des écrivains paysans, des écrivains et artistes paysans, dont je voudrais rappeler l'adresse du site internet pour les auditrices et auditeurs qui veulent avoir plus d'informations. Donc c'est www.écrivain-paysan.com. Je répète, www.écrivain-paysan.com. Alors, il y a quelques semaines, je suis allé à la rencontre d'Odette Vado. On va l'écouter.
Bonjour Madame Vado, donc je suis très heureux de faire votre connaissance et j'aurais aimé, donc pour les auditeurs de Radio Languedoc, que vous nous présentiez un peu quelques-uns de vos ouvrages. Mais d'abord, parlons un peu du village où vous avez vécu votre enfance. Et c'est un village paysan du Val-de-Saône. Pouvez-vous nous dire quelques mots?
Alors, nous habitions, mes parents et mes frères et sœurs, une grande ferme agrémentée d'un joli pigeonnier. C'est la maison de famille. Elle vient de ma grand-mère, léguée plus tard à ma mère et plus tard à moi-même. Voilà, trois générations. Je ne l'habite pas. Je l'entretiens de même que les terrains attenants. Mon souhait serait de voir l'un de mes descendants s'y intéresser. Pour l'instant, il la dédaigne. C'est bien dommage. Je la garde, j'y tiens. C'est toute une portion de ma vie. Ce sont mes grands-parents, mes parents, mes souvenirs d'enfance.
Oui, mais le Val-de-Saône, c'est une région agricole, c'est une région riche, enfin, en agriculture. Disons, quelles étaient les cultures pratiquées, la vie des paysans dans cette région?
Alors, les paysans dans le Val-de-Saône pratiquent la polyculture, en quelque sorte. On cultive les pommes de terre, le maïs, les betteraves sucrières, et l'élevage, bien sûr. Il y a de nombreux prés. La plaine de la Saône est très riche en prés.
Et votre intérêt pour l'écriture et pour l'écriture sur le milieu paysan. Ça vous est venu comment ?
Je pense que c'est le paysan Francis qui a tout déclenché. C'était un monsieur admirable qui adorait les enfants. Il avait toujours un mot gentil pour nous et il fréquentait beaucoup ma famille. Et un jour, j'ai eu envie de raconter sa vie.
Oui, le Francis, c'est votre premier livre, c'est ça ?
Oui, le Francis, c'est mon premier livre, oui. J'ai fait un tome 2 où j'ai parlé plus de son fils, mais toujours Francis, le préféré.
Et vous avez toujours écrit sur les paysans, c'est ça le centre d'intérêt, c'est votre préférence. Quel était, disons, un peu le point d'attraction concernant cette thématique, si vous voulez?
Oui, j'écris sur la terre, hein, mais je ne pense qu'à ça, qu'à écrire sur la terre. La terre vibre en moi, hein. Parce que je suis consciente de tous ses pouvoirs, de ses bienfaits, de tout ce qu'elle nous apporte de vital. Et bien sûr, nous avons besoin d'elle. Nous sommes mariés à la terre, n'est-ce pas ? Nous marchons avec elle, avec les saisons.
Oui, alors, et le Francis, qui sait-il, qui est, comment, quel personnage il est, qu'est-ce que vous avez voulu faire ressortir dans cet ouvrage ?
Le Francis, je le revois encore devant moi. Hein. Le Francis, en bâtissant mon roman, j'ai retrouvé mon Francis. J'ai retrouvé le chemin empierré au retour de l'école, sa silhouette trapue, le visage rougeau de mon bon paysan. Et ses lyres insérés dans sa ceinture de flanelle, pensez donc. Un grand mouchoir à carreaux autour du cou. C'était Francis, c'est toujours Francis. J'entends encore le son de sa voix, des histoires sans queue ni tête. J'ai aimé raconter Francis. J'ai vécu sa vie, je suis fondue dans son intimité. Je le sens si fort autour de moi qu'il m'émeut encore, Francis.
Avec une bêche à l'épaule, avec à la lèvre un douchant, avec à la lèvre un douchant, avec à l'âme un grand courage, il s'en allait trimer au champ. Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps. Pour gagner le pain de sa vie, de l'aurore jusqu'au couchant, de l'aurore jusqu'au couchant, il s'en allait bêcher la terre, en tous les lieux, par tous les temps. Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps. Sans laisser voir sur son visage ni l'air jaloux, ni l'air méchant, ni l'air jaloux, ni l'air méchant, il retournait le chant des autres, toujours bêchant, toujours bêchant. Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps. Et quand la mort lui a fait signe de labourer son dernier champ, de labourer son dernier champ, il creusa lui-même sa tombe en faisant vite, en se cachant. Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps. Il creusa lui-même sa tombe en faisant vite, en se cachant, en faisant vite, en se cachant, et s'y étendit sans rien dire pour ne pas déranger les gens. Pauvre Martin, pauvre misère, dors sous
oui,
la terre,
alors,
dors sous le temps.
Après le Francis, vous avez écrit d'autres ouvrages, et notamment vous avez écrit un ouvrage intitulé Le vieux garçon. Alors, le vieux garçon, c'est un paysan qu'on retrouve un peu dans différentes régions, et d'ailleurs, il y a un moment où ce thème, disons, des vieux garçons, des vieux paysans célibataires, était un problème social, si l'on veut. Bon, il y a plusieurs raisons, sans doute, pour ça. On va pas s'étendre là-dessus, mais disons, vous, dans votre livre, dans votre ouvrage, Le vieux garçon, qu'est-ce que vous avez voulu faire ressortir ?
Ah, le vieux garçon, qu'est-il, mon vieux garçon ? C'est Mathieu. C'est Mathieu. Ce que j'ai voulu faire ressortir, c'est sa captivité en Pologne pendant la dernière guerre et ce qui s'est passé pendant cette captivité. Donc, il a rencontré une jeune fille, Josefa. Et Josefa était très valeureuse. Bon, des projets ont vu le jour dans l'esprit des deux jeunes gens. Alors, Mathieu, il a quelques biens chez lui, il est fils unique. Il a quelques biens, il offrira donc à Josefa le pain et l'amour. Il l'emmènera après la guerre dans son village. Et puis les parents, ils sont tout contents de voir Mathieu marié à une jeune fille qui lui convient. Oh, hélas, mon pauvre Mathieu. La mère ne pense pas la même chose, la mère. Oh, elle a l'esprit étroit, la mère. Elle est dit, non Dieu, une étrangère. Mais c'est pas possible. Et mon pauvre Mathieu va rester vieux garçon. Mais, mon Dieu, la fin de sa vie ne sera pas si triste. Parce qu'il va rencontrer l'amitié d'un petit voisin. Et la vie sera sûrement moins dure, plus douce pour Mathieu. Il n'oubliera pas Josefa. Mais enfin, que voulez-vous? C'était sa vie.
Oui, donc là, vous avez romancé, disons, la vie d'un vieux garçon, Mathieu. Mais ce vieux garçon, on le trouvait dans les différents villages, milieu rural. Comme je disais tout à l'heure, les paysans, à un moment, ils avaient du mal à trouver une partenaire pour plusieurs raisons. Quelles sont, enfin, selon vous, les difficultés qui faisaient que les paysans restaient célibataires comme ça?
Mais pour Mathieu, je pense que l'âge n'était pas encore venu, peut-être. Ou alors, reparlons encore de sa mère qui ne trouvait pas de jeune fille à son goût. Que c'était le goût de la mère qui comptait. On ne s'occupait pas des sentiments. La mère disait, oh, mais oui, mais on se marie. Et après, les sentiments viennent après.
Oui, oui, donc il y avait ce problème de génération, c'est les parents qui choisissent le partenaire ou qui veulent un partenaire qui leur convient et pas tellement partenaire qui convient à leur fils, quoi. Bon, il y a ça, il y a certainement cette, mais je pense aussi qu'il y a d'autres raisons, notamment la pénibilité du travail, l'isolement un peu, la vie à la campagne, etc., qui ont fait que aussi il y avait quelques difficultés à trouver, enfin, des partenaires ou des filles qui voulaient épouser des paysans.
Oui, je voudrais lire un extrait. Présenter un extrait du dernier livre de Madame Vado, intitulé « Toinette, fille de ferme », paru aux éditions de l'Escargot Savant en 2010, afin d'illustrer le ton de conteuse qu'elle utilise avec un talent de peintre pour restituer la richesse en couleurs de la nature, créer l'ambiance d'une atmosphère imprégnée d'une chaleur humaine, et animer avec tendresse des portraits passionnants de paysans ordinaires pour garder vivant la mémoire d'une époque. Alors, ce passage, il se situe au moment où Toinette va quitter sa famille et partir avec son maître. Alors, c'est la maman. Alors, c'est un extrait. Les prières dites d'un cœur profond, la mère apaisée au vu du bien fondé de sa demande, convainc que Dieu le Tout-Puissant l'avait entendu. Alors, appariant son courage et sa piété, le buste redressé, puisqu'elle devait être la plus forte, elle dit à sa fille avec courage, « Tu donneras bien de temps en temps, de temps à autre, des nouvelles, et peut-être que le maître te laissera venir deux jours, à la Noël ou à la Saint-Michel. On dit que c'est un brave homme, une bonne ferme, quoi. Tu n'auras pas faim là-bas. Il y a de belles volailles et des cochons gras. » Elle cherchait des mots apaisants, tant pour elle que pour sa fille, mais sa tristesse était si lourde que les paroles elles-mêmes tombaient comme sur une pierre. Le jour du départ arriva si vite que le temps des recommandations fut trop court. L'attelage du maître était là. Ils sont tous là, sur le pas de la chaumière, qu'Antoinette s'avance vers la charrette. Leurs regards ne sont pas assez grands pour suivre sa silhouette, comme s'ils la voyaient pour la première et la dernière fois. Il leur faut garder sur le cœur son image de grande sœur, de petite maman, ce rôle lui étant souvent dévolu. Son sourire, qu'elle s'oblige à maintenir avant que les larmes ne viennent le ternir. Les petits, eux, ne peuvent se retenir. Dédé, approchant ses 4 ans, cramponne les hardes de la mère, crie, pleure et trépigne. De son nez coule la morve qui tombe sur sa bouche. Il balaie tout d'un revers de manche, enfuit son visage barbouillé dans les jupes de la mère. De lourds sanglots s'y étouffent. La mère lève les yeux au ciel et dit vaillamment « Vois, ma fille, ce ciel bleu qu'on dirait le voile de la Vierge. Elle te regarde et te protège. » Il menait une vie dure dans la métairie, où il manquait toujours 19 sous pour faire 20 sous. Certains soirs, les pauvres s'étendaient sur leur paillasse embourrée de feuilles de maïs, l'estomac à demi rassasié. Leur bonheur était d'être ensemble, dans leur pauvre rusticité, tout simplement. Ce départ leur faisait cruellement sentir qu'un peu de bonheur les quittait. Y avait-il d'autres desseins pour les gueux qu'ils étaient ?
Les des chansons pour dire les jolies filles, celles que beauté, charme et grâce habillent, celles dont le corps fait que d'amour on rêve, rien pour celles pour qui c'était marche ou crève, qui 18 heures d'affilée travaillaient pour gagner juste de quoi pas de faim crever. La Marie, la Louise ou la Justine, la Mélanie ou la grande Albertine, qui à grand-peine menaient leur vie à terme. Toutes les seuses qu'on appelait les bonnes des fermes étaient traitées comme des maris souillons, quelque chose comme de rustique cendrillon. Sourire fallait aux humeurs de la maîtresse et ne point crier quand le maître passait les fesses. Et créature à notre image faite devait trimer parfois plus dur que les bêtes. Leur chavirait laissant un soir d'été, et dans la paille elle se faisait culbuter. Puis les bâtards qui étaient leur réplique les remplaçaient à l'assistance publique. Marie salope, pas Marie, couche-toi là, bague aux doigts sortaient leurs épingles des draps. C'était la Marie, la Louise ou la Justine, la Mélanie ou la grande Albertine, qui à grand-peine menaient leur vie à terme. Toutes les seuses qu'on appelait les bonnes des fermes, au seuil de leur vie s'habillaient comme veuves. La mort n'était pas une épreuve. Recevait quelque écu un jour de comice pour 60 ans de bons et loyaux services, pour toute une vie de labeur et de sacrifice, et du patron même assouvir les vices. Avec comme fait que d'aller à l'église, comme gage de quoi s'acheter une chemise. et de l'orphelinat les souvenirs peu tendres. La bonté du monde leur faisait peu attendre, subissant partout des iniquités. On remonterait pourtant sur la dignité. Stella Marie, la Louise ou la Justine, la Mélanie ou la grande Albertine, qui à grand-peine menaient leur vie à terme. Toutes ce qu'on appelait les bonnes des fermes. Dedans les brancards où le sort les ficelait, ni avec la mort pouvant les dételer. Et y a pour leur tombe dedans nos cimetières, guère plus de respect que pour des taupinières. Sont mortes que nul des profondis ne pleure. Ces vieilles histoires, point ne vous émeuvent. C'était que la Marie, la Louise ou la Justine, la Mélanie ou la grande Albertine, qui à grand-peine ont mené leur vie à terme. Toutes les sœurs qu'on appelait les bonnes des fermes.
Aco era la crònica de literatura paisana amb d'il·lustracions musicals. Hi havia Georges Brassens, Pauvre Martin i Robert Rotrou, les chanteurs du Perche, les filles de ferme.